Il prend 12 points d'avance sur le premier relégable Puy. Et le Vevey Sport, 5e, s'est pour sa part imposé 2-0 face à l'équipe qui occupe la deuxième place, les moins de 21 du FC Sion.
En février dernier, l'UHC Journy et les Raptors de Vevey avaient annoncé leur fusion.
Le nouveau club Unihockey Riviera Journy-Vevey est désormais prêt à s'imposer sur la scène sportive régionale. Et c'est mercredi le 1er mai qu'il sera officiellement actif pour marquer pleinement cette nouvelle étape de vie. Une journée de fête était organisée hier à Saint-Léger-la-Chiesa. L'occasion d'échanger sur les enjeux du sport dans la région, mais surtout de dévoiler la nouvelle identité visuelle, symbole de l'avenir de cette pratique sportive sur la Riviera. Un programme qui a réjoui Marc Chapuis, actuel président de l'UHC Journy et futur co-président du nouveau club.
Beaucoup, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de plaisir aussi à voir l'engouement qu'il peut aussi y avoir autour, alors aujourd'hui du dévoilement, mais aussi pour la suite. On a eu beaucoup aussi de retours positifs, puis c'est des choses aussi qui nous portent et c'est des choses qui nous permettent aussi de sentir qu'on est dans le juste et puis qu'on... Voilà, le fait de prendre du temps, le fait de réfléchir, et ben finalement, ça parle aussi aux gens. Donc ça peut que nous réjouir.
Prendre du temps en collaborant, c'est ce qu'ont fait les deux clubs de Journy et Vevey durant 4 ans, avant de fusionner. Alors à savoir si cette dernière était finalement une issue attendue, l'actuel président des Raptors de Vevey et futur co-président du nouveau club, François Chapuis, a sa réponse.
Au départ, si on nous avait dit qu'on fusionnerait aujourd'hui, on n'aurait peut-être pas cru. Mais effectivement, plus le temps a avancé, plus les choses se sont mises ensemble, plus on a compris que ce qu'on faisait portait en fait les gens et puis développait notre sport et c'était positif. Bah, pour nous, c'est devenu de plus en plus rapidement une évidence qu'il fallait qu'on puisse renforcer nos collaborations, ce qui s'est traduit par une fusion qui aujourd'hui paraît évidente effectivement. Et puis c'est pour ça qu'on est d'autant plus réjouis d'y être arrivé.
Un sujet préparé par Julie Gay.
Le Français Dorian Godon a remporté hier au sprint la 5e et dernière étape du Tour de Romandie à Vernier.
Au classement général, par contre, c'est l'Espagnol âgé de 23 ans, Carlos Rodriguez, qui s'impose au terme de cette ultime étape pluvieuse et mouvementée. Car avec 5 coureurs en 30 secondes, la course était loin d'être jouée avant le départ. Le commentaire à ce sujet de Richard Chassot, directeur de la manifestation.
C'est vrai que c'était humide et mouillé, mais un accueil très chaleureux de la région. Sur le parcours, un public très présent, avec beaucoup d'animation, des décorations. Donc une bienvenue au Tour de Romandie qui était fantastique. On avait déjà fait un premier départ ici à Vernier pour les femmes l'année passée en septembre. Et là, on a vraiment... c'est un gros projet, hein, départ et arrivée. Et puis un parcours un peu spécial pour une course par étape, parce qu'on a fait un circuit de 40 km dans la campagne genevoise. Mais le mauvais temps, je pense, nous amenait deux choses. Premièrement, une forme de classique, donc dans le sport, vraiment quelque chose qui était encore un suspense jusqu'à la fin, qui était difficile à gérer pour les équipes qui étaient à l'avant. Donc un peu de tension, un peu de suspense jusqu'au bout. Et puis évidemment aussi de montrer que la campagne genevoise, c'est pas plat. Les coureurs ont dû vraiment faire attention à pas perdre le Tour de Romandie sur cette dernière étape. Aller le gagner, il fallait attaquer. La situation de course avec un coureur d'Ineos et deux coureurs de Bora, 7 secondes ou 9 secondes derrière, était vraiment pas gagné pour Ineos. Par chance, j'ai envie de dire pour eux, ils ont une équipe qui est très très forte, solide. Ils savent gagner des grandes courses par étapes. Rodriguez est un solide champion, un solide leader. Et puis, il y avait plein d'attaques. C'est toujours difficile de tout maîtriser. Et puis, dans le final, bon, on l'a vu, hein, ça attaquait encore dans le final jusqu'au dernier kilomètre. Donc, pour un leader, c'est toujours... Voilà, on est, mais nous, la dernière étape reste une étape. On veut qu'elle soit disputée dans une manière sportive.
Des propos recueillis par nos confrères de OneFM et Radio Lac.
L'actu en continu, radiochablais.ca. Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
Mais...
Plan large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Michaël Caillou, bonjour.
Bonjour.
Frédéric Morel, bonjour.
Bonjour.
Voilà, on fait une petite exception dans cette émission en recevant deux personnes, deux artistes qui nous convient au crochetant à un foisonnement naturel. Les murmures de la forêt, c'est le titre de cette exposition autour de Bambi. Alors, c'est peut-être un peu court de dire autour de Bambi, Michaël Caillou, mais tout de même, déjà, vous avez le mérite de nous rappeler que Bambi, avant d'être un Disney, c'est un livre et qu'il a 100 ans, enfin, il a eu 100 ans
en 2023. En 2023, et en fait c'est à l'occasion de la sortie de ce livre donc qui fêtait les 100 ans cette année que j'ai eu l'occasion de proposer à Frédéric de venir avec moi au Crochetant et d'exposer ensemble nos œuvres et d'être en immersion dans une sorte de forêt un peu fantasmée.
Fantasmé, foisonnant. Moi, j'ai ce mot foisonnant
luxuriant,
dans la tête. On peut parler de cela aussi.
Un peu parfois inquiétante, un peu parfois solaire. Voilà.
Bon, Frédéric Morel, Bambi, ce personnage qui est dans l'imaginaire collectif, il vous a touché tous les deux ou
vous... Oui, il nous a touché tous les deux parce que je travaille aussi sur la nature, la chasse, la forêt. Donc le livre était, mettait en relief aussi le côté inquiétant de la chasse. Et je connais Michael depuis très longtemps et je suis infiniment reconnaissante de m'avoir invitée parce que l'expo est merveilleuse.
Alors, en effet, c'est une expo originale hein, pour le Crocheton.
C'est original. Alors, tout a été fait main dans la main avec Julien Hontou, commissaire de l'exposition. Et en fait, on a créé au fur et à mesure les décors. Les œuvres, pour la plupart, étaient déjà créées parce qu'en fait, le livre est sorti en octobre dernier. Et moi, en plus du livre, donc j'ai fait les illustrations, j'ai fait un travail de gravure et Frédéric a déjà travaillé depuis longtemps autour de pas de Bambi, mais comment on pourrait dire, autour de... Oui, comme
si,
tu disais...
Bambi, c'est mon icône, c'est ma pièce principale.
Voilà, c'est la pièce principale.
Bon, on va expliquer un petit peu. Hein. Vous avez évoqué un livre, on en parlera, vous avez la vraie histoire de Bambi. Vous nous rappelez justement qu'il y a ce roman avant le Disney des années 40. Et puis, vous, Frédéric, alors, vous êtes dans une sculpture tapissière ?
Oui, alors c'est des formes...
Pas pâtissière, hein, tapissière.
C'est des formes réalistes, puisque c'est les formes qui servent aux taxidermistes. Et après, je leur fais raconter une histoire, qui peut être une histoire de l'au-delà, de leur vie passée. Et c'est à base de tapisseries populaires, qu'on appelle... parfois les canevas.
Bon, je vais décrire un peu parce qu'on n'a pas l'image. Hein. Oui. À la radio, on a en taille réelle
des animaux,
principalement des animaux à bois. Hein. On est dans l'univers de Bambi, donc des cerfs, des biches. Et vous avez utilisé le mot taxidermiste.
Oui.
On pourrait imaginer qu'il y a un animal mort sous vos tapisseries. C'est pas le cas. Hein. Les taxidermistes travaillent avec des canevas.
Ils revivent justement parce que les canevas permettent de raconter leur histoire parce qu'il y a des motifs, il y a des référence très connue aussi dans ces motifs populaires. Je raconte une histoire comme une bande dessinée en collant ce textile sur les formes.
Qu'est-ce qui vous plaît dans la tapisserie? Enfin, ce sont des tapisseries anciennes, on voit, ce sont pas des...
Vintage, parce qu'il y en a vintage. Des très anciennes qui sont plutôt dans le secteur de la décoration, mais... C'est justement ce côté populaire, ce côté que les gens aiment et que tout le monde peut aborder. Voilà. Tout le monde peut aborder.
Ouais, il y a un côté simple d'accès en effet. Il y a un côté un peu désuet aussi dans la tapisserie.
Voilà,
hein.
Oui, je l'assume. Je revendique.
Vous utilisez vintage, qui est un mot peut-être un peu plus glamour. Bon, alors ça c'est pour l'aspect en trois dimensions. Hein. Ce sont des sculptures qui ponctuent l'exposition de Michael Caillou. Vous alors, on est dans le dessin d'abord, puis alors vous allez m'expliquer parce que moi j'ai pas les termes techniques. Je suis pas historien de l'art. Tout cela se termine parfois en gravure sur métal, sur du qu'est le métal, du bronze.
Alors c'est du cuivre.
Du cuivre.
Donc en fait moi à la base je travaille tous les dessins. En fait là en l'occurrence c'était donc on parlait du livre tout à l'heure. Moi je dessine tout au feutre fin et après j'ai plusieurs particularités dans mon travail, c'est que à la base ces dessins sont faits pour que je puisse faire mes gravures. C'est-à-dire qu'en fait c'est des ébauches, des croquis à la base qui sont devenus après du design parce qu'en fait au fur et à mesure du temps des éditeurs sont venus me voir en me disant mais vos dessins nous intéressent pour des éditions. Donc premièrement j'ai fait les illustrations de ce livre et j'avais envie, parce qu'en fait moi je connaissais pas Bambi, l'histoire de Bambi en fait en réalité, parce que ma mère m'a fait zapper.
Alors ça on en parlera tout à l'heure, c'était intéressant.
Parce qu'elle voulait pas que je vois, donc j'ai jamais vu Bambi, en tout cas quand j'étais petit. Et donc du coup De La Chaux m'a proposé il y a 2 ans de faire ce livre et donc
c'est l'éditeur.
J'ai découvert cette histoire et il y avait beaucoup de similitudes avec je ne suis pas un chevreuil, mais j'ai été élevé tout seul par ma mère, etc. Et au départ, je me suis un peu identifié à Bambi. Je me suis dit, c'est presque moi, mais bon, je ne suis
Bon, on va parler de Bambi et de son impact. Tout à l'heure, on a tous un petit traumatisme, voilà, probablement.
Voilà, probablement.
Lié à cette histoire-là.
J'ai pas eu ce traumatisme.
Dans votre travail, vous disiez, il y a une partie un peu cabinet de curiosité, comme ça, où on voit les dessins en détail des animaux. Hein. C'est le début de l'expo, d'ailleurs.
Alors, c'est le début de l'expo. En fait, c'est un côté un peu didactique, ouais, dans le sens où, en fait, on montre comment je travaille. Julia,
les études, voilà, des différents animaux qui ensuite vont être intégrés.
Je pars toujours du dessin. Et ça, après, ça devient soit des gravures, soit des sculptures, plutôt des bas-reliefs, soit des illustrations, soit ça peut aller jusqu'à l'édition de produits. Moi, j'aime bien un peu avoir une vision à 360 degrés de mon métier. Et donc là, quand on m'a proposé de faire les illustrations et que j'étais un peu touché par l'histoire, j'ai eu envie de travailler sur la gravure, qui est plus mon travail personnel plastique. Et donc là, j'ai reproduit mes dessins par la gravure, en découpant le métal, en gravant, en imprimant et en mettant en relief mes cuivres, qui devient un peu une sorte de bas-relief.
Ouais, ça, il faut expliquer. Voilà. Hein, les cuivres, donc, c'est ce qui permet d'imprimer une série de... Comment on appelle ça? De gravures.
De gravures moi, c'est des gravures à l'eau forte.
Voilà. On les numérote, ça c'est le principe. Et puis après, dans l'éthique du métier, on devrait les tracer ou les détruire pour pas pouvoir les reproduire à l'infini et qu'elles perdent de la valeur pour ceux qui les ont achetées, acquises. Vous dites, bon, non, je vais pas tracer, c'est quand même du boulot, mais je vais en faire une autre œuvre, en fait.
À la base, si vous voulez, moi, ce qui m'intéressait quand j'ai fait la gravure, c'était la matrice en cuivre qui devenait une sorte de bijou. Voilà. Et donc... effectivement, quand on fait de la gravure, on détermine un nombre d'exemplaires d'impression et on raye la plaque pour déterminer la valeur. Par honnêteté. Ouais. Et puis, moi, effectivement, je vais pas rayer parce qu'en fait, au préalable, je les découpe. Donc, c'est beaucoup d'heures de. En fait, j'ai fusionné deux techniques, la découpe du bijou à la main et la gravure à l'eau forte. Et donc, du coup, je passe énormément de temps à préparer mes plaques. Donc, évidemment, j'avais pas envie de les rayer.
Ouais, mais c'est pas deux coups de scie. Hein, c'est vraiment pointilliste, voilà, ce que vous faites. C'est de la dentelle. Hein.
Et donc, pour ne plus imprimer, parce que je reste quand même, pour moi, c'est au code de la gravure, au lieu de les rayer, je les met en volume par des systèmes de repoussage, de ciselage, qui est des techniques de bijoux. Donc je mélange vraiment le bijou et la gravure à l'eau forte. Voilà.
Vous êtes un artisan-artiste, un artiste-artisan?
Je serais mon propre artisan. Donc voilà. Non, je dirais que plasticien. C'est qu'en fait, ce que j'aime bien, moi j'ai eu des formations, Frédéric était un de mes professeurs. Donc,
oui, il y a cette relation entre vous.
Moi j'ai fait une école où on touchait tous les supports, en fait, où il n'y avait pas de limite entre tel ou tel secteur, on va dire. J'ai même fait un peu de mode, j'ai même un peu c'était une époque où on gravitait un peu sur l'environnement, voilà. Donc
ça s'appelait mode et environnement,
voilà, c'est ça. Mais voilà, je vais plus aller dans la plasticité, plus dans la gravure et parfois plus dans le design pour travailler avec des éditeurs.
Je vais vous donner aussi un peu des cours maintenant.
J'en ai donné
la pédagogie. Bon, mais en tout cas, vous, Frédéric Morel, c'est une part importante de votre vie d'artiste. Hein, la pédagogie, le fait de transmettre.
Oui, et la transmission, bien sûr, c'est un mot qu'on emploie bien beaucoup en ce moment, mais c'est absolument nécessaire si on veut faire la chaîne des savoirs, la chaîne des excellences, parce que là, c'est un peu ça. Je rappelle, Michael était un étudiant exemplaire, et il a poursuivi, il a su ouvrir sur sa vie d'artiste, sur ses thèmes qui étaient déjà embryonnaires dans son travail et qu'il a su développer parfaitement dans la durée.
C'est pas commun, je suis pas vraiment baigné dans ce monde-là, mais c'est pas commun une ancienne professeure qui expose avec son ancien étudiant.
À ce niveau-là, on n'apprend plus. C'est un dialogue entre le professeur, entre guillemets, parce qu'il ne professe pas, en fait. Mmh. Il essaye d'organiser ce qui est proposé par l'élève.
Et maintenant, vous apprenez de votre ancien élève.
Exactement.
On va dire disciple, c'est bien disciple.
Oui, disciple, je ne sais pas.
Moi, je dirais un peu mon mentor. Ouais. Et en fait, moi, pour moi, c'est un peu, par exemple, cette exposition, le fait que Julia ait accepté Frédéric dans l'aventure, j'ai l'impression d'arriver à une étape. Moi, je rêvais de faire une exposition avec Frédéric parce que je la suis depuis très longtemps. Enfin, je la suis à l'école déjà. Je savais qu'elle faisait des créations. Alors à l'époque, elle faisait pas ça, mais déjà c'était très. Je m'interrogeais comment elle pouvait faire ces espèces de structures de feutres très très blanc, mais en même temps avec un raffinement. Donc j'ai toujours été. Et puis en fait, j'ai eu un crush avec elle quand j'étais à l'école. Et donc du coup, moi, quand j'ai découvert ce travail, il y a quand même maintenant pas mal de temps, ce travail sur le canevas, je sortais presque de l'école. Tu étais déjà en parallèle.
Ça se concrétise maintenant avec une exposition commune. On travaille ensemble. Comment ça se passe? On va faire une exposition ensemble. Quel est le déroulement finalement? Vous avez un thème commun. Pour l'occurrence, c'est Bambi, c'est la forêt, les c'est cervidés.
Ça.
Et vous travaillez chacun de votre côté, vous vous rencontrez, vous vous montrez ce que vous faites. Comment ça se passe?
Là, en fait, le travail était. La question était de savoir comment associer. Puis en plus, il y avait aussi Maya, où j'en parlerai après, qui a fait un travail de motion design sur le livre. Donc c'est mon ancien élève. Donc il y a.
On va appeler ça de la vidéo,
de la vidéo. Et donc il y a un dialogue. Mais. En fait, nous, on a échangé par des mots. En fait, on s'est dit, on veut quelque chose qui soit immersif, où on rentre dedans, quitte à que ça soit brouillé, que ça soit du mimétisme de l'animal sur le mur. Et donc, on s'est dit, on partait sur une forêt un peu. Autour des quatre saisons quand même, qu'on a une sensation parce que le livre c'est quand même un éternel recommencement.
Moi j'ai jamais vu ça non plus, mais c'est il y a derrière les œuvres des papiers peints qui ont été réalisés exprès pour l'expo, hein, qui sont dans cet univers-là, qui ont les couleurs chaudes de l'été, de l'automne, froides de l'hiver.
Alors c'est pas des c'est des papiers peints parce que c'est le support.
Oui, j'avais peur en utilisant le mot papier peint qu'on me dise mais non monsieur c'est pas du papier peint.
C'est pas du papier peint parce qu'en fait c'est pas vraiment au raccord, mais c'est des panoramiques, on va dire, c'est des mais c'est en fait, normalement, ça peut être de la toile ou là, c'est du papier peint parce que techniquement, c'était. Mais ça pouvait, effectivement, les gens pourraient.
Fondu de Bambi pourrait très bien décorer son salon avec ce papier.
Parfaitement.
Si vous rencontrez un psychopathe de Bambi,
faut lancer
un business de papier peint. Soyons clairs.
Bon, moi, j'en ai déjà fait du papier peint. C'est un des. Mais là, pour le coup, c'était de panoramique, mais c'est le nouveau papier peint, les panoramiques.
Vous n'êtes pas complètement.
Par rapport au lieu, c'est impressionnant. On est vraiment en immersion, c'est le mot que tu employais.
À la galerie du Crocheton jusqu'au 12 juillet, à voir cette exposition. On va continuer à en parler dans la deuxième partie de cette
Radio Chablais, programme de nuit.
Plan large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Voilà, on se retrouve toujours dans cette galerie du Théâtre du Crocheton à Monthey avec cette exposition Les Murmures de la Forêt autour de l'univers de Bambi avec nos deux invités Michaël Caillou et Frédéric Morel, les deux artistes de cette exposition à voir donc jusqu'au 12 juillet prochain à Monthey au Théâtre du Crocheton. Foisonnant, luxuriant, on l'a dit, moi j'ai lu et j'ai vu ce lien avec l'art nouveau, avec alors j'ai regardé un peu, moi j'ai une mémoire artistique de Trivial Poursuite un petit peu, hein, mais Klimt, Mucha, j'ai vu des portraits de femmes luxuriants, foisonnants. Est-ce qu'il y a ce lien à la nature aussi dans l'art nouveau?
Alors l'art nouveau, moi je suis plutôt Lalique. Donc en fait, parce qu'à la base, moi ce qui m'intéressait dans l'art nouveau, c'était les peignes. Moi j'ai tout un travail autour de ça, c'est le point de départ de mon travail, on va dire, artistique. Et après ça a évolué, en fait c'est des codes, c'est-à-dire qu'en fait l'art nouveau c'est un peu une façon de composer, le végétal devient la structure. En fait, l'art nouveau, c'est la structure devient esthétique. Et donc moi, je me suis surtout inspiré pour mes plaques de métal, en fait, où d'un seul coup c'est une seule pièce et tout s'enchaîne. Voilà. Et donc c'est là où l'art nouveau pour moi est. J'ai pas forcément nécessairement dans la représentation humaine, même s'il y a des parties de corps. Moi, je travaille beaucoup les ex-voto, etc. Toi non plus. On la retrouve des fois dans les.
Il y a des mains, il y a des.
Voilà. Mais c'est évoqué, c'est-à-dire que de toute manière.
Bon, là, on est dans l'univers de Bambi où on sent que l'homme n'est pas loin, hein, parce qu'il est le méchant dans l'affaire.
Il est là, il est partout. Il est partout.
Il est sous-entendu.
sous-entendu par le danger. Par exemple, il y a des représentations avec des serpents pour Frédéric. C'est le danger. Et puis, bon, de toute manière, dans le roman initial de Félix Alten qui a écrit Bambi, c'est un roman d'éducation pour montrer que la nature n'est pas si merveilleuse que ça. Au contraire, elle peut être dure. Elle peut être dure en réalité. Donc,
on va revenir à Bambi, mais j'aimerais juste un mot encore. Frédéric Morel, on s'inscrit forcément dans l'histoire de l'art. Quand on crée, on a des références en tête, ou est-ce qu'il faut, une fois qu'on les a étudiées, qu'on les connaît, il faut les balayer, il faut les mettre de côté?
Quand on n'a pas de référence, on est dans l'art brut, qui est d'ailleurs un merveilleux musée à Lausanne. On a des références très fortes à l'art en général, et on se situe ou pas d'ailleurs, mais il y a une influence.
En l'occurrence, c'est Julia qui a fait le dossier que moi j'ai lu et probablement qui a illustré un peu cette exposition, et c'est elle qui m'a amené vers cette notion d'art nouveau. Elle est importante, cette notion, pour vous, au moment de la création, c'est mon point de départ.
C'est qu'en fait, moi avant j'étais parce que j'ai eu plusieurs carrières, on va dire, où j'ai toujours travaillé personnellement sur mes thématiques, etc. Mais à un moment donné, j'ai eu envie de travailler justement cette gravure, ce travail de découpe en métal. Et mon point de départ, c'était une exposition aux Arts Déco où il y a une pièce permanente de bijoux. Et j'avais vu ces fameux peignes sur le mur. Et donc, je me suis dit, je vais travailler la gravure comme des bijoux muraux. Et donc, c'est toujours là. Mais moi, depuis longtemps, mes thématiques, c'est mes vacances. Je dessine tout, partout où je suis. Donc, en fait, je pense qu'inconsciemment, elle revient dans mon travail. Mais ça fait longtemps que l'art nouveau est, on va dire, sous-jacent, mais pas forcément. À chaque fois, je vais pas me dire, ah, là, je fais de l'art nouveau.
Il faut que je sois un peu plus art nouveau,
pas du tout. Mais bon, c'est par principe.
On crée son univers avec son bagage.
Existe avant, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours passionné, l'esthétisme. Ça m'a toujours intéressé. J'adorais. On a eu des cours sur Guimard, sur les. Moi, je suis très déçu à Paris. On a retiré, par exemple, toutes les entrées de métro. Art nouveau, par exemple.
Des choses très, très bonnes.
J'ai un côté désuet dans mes goûts, voilà, de
nostalgie. Une nostalgie. Bon, parlons de Bambi. Quelle affaire, ce Bambi. Je vous en veux un petit peu de m'avoir remis dans mes traumatismes d'enfant. On a tous.
Oui, moi, c'est un traumatisme.
Mais oui, bon, alors,
j'ai pas eu de traumatisme.
Oui, mais justement, c'est intéressant parce que je me demandais en venant vous voir, est-ce qu'on peut encore montrer Bambi, là, pour le coup, le dessin animé, ou lire le livre, parce que la cruauté, j'imagine, du meurtre de la maman, on va dire les mots. Et là, dans le livre aussi, bien sûr, est-ce que c'est encore abordable pour un enfant du 21e siècle? Même vous, on a voulu vous éviter ça.
Alors, je pense que c'est extrêmement moderne, surtout avec les évolutions pédagogiques. Je ne sais pas comment dire, parce que moi, je n'ai pas d'enfants, mais je vois mes amis autour de moi qui ont beaucoup d'enfants. C'est, à la base, Félix Alten, pour lui, c'était un roman d'éducation. Donc, et il faisait parler les animaux pour dire des choses. C'est vrai que moi, j'avais une lecture assez, on va dire, neuve. J'avais pas forcément connu.
Le dessin animé, vous l'avez pas vu, donc vous n'étiez pas dans cet univers-là. Ouais.
Alors après, si vous voulez, j'ai des images, c'est à quoi je voyais. Bambi, on m'en a parlé. Il y a la mort de la mère, etc. Mais c'est vrai que moi, je l'ai vu, mais tardivement, donc ça m'a pas perturbé plus que ça.
Mais
ça,
je pose cette question parce qu'on a quand même une littérature destinée aux enfants. Si on prend les contes du 19e, c'est extrêmement cruel. La mort est là, toujours. Et puis, on a dilué ça au 20e siècle. On s'est éloigné de la mort. Vous nous le démontrez, là, avec Bambi.
C'est ça que moi, c'est quelque chose qui... Il y a quelque chose qui me fait peur, c'est la mort, évidemment. Mon travail, c'est justement... Hier, on me parlait, on me disait, c'est assez marrant, parce qu'il y a quand même assez un contraste avec le travail de Frédéric. qui peut parfois être plus inquiétant. Moi, mon travail est beaucoup plus, on va dire, de façon extérieure, plus facile,
ouais,
plus
enfantin. Dans le livre, comme dans l'expo, les enfants ne vont pas être confrontés à une image de mort brutale.
Non,
il n'y a pas de sang qui gicle, etc. C'est plutôt suggéré.
L'humour. Ouais. C'est plutôt de l'humour, je pense. Mais en fait, il y a quand même une thématique. Moi, c'est des natures mortes, par exemple. Je travaille, ma signature, c'est la mouche. Donc déjà, c'est quelque chose qui n'était pas forcément, qui était en lien avec mon travail personnel. Et après, je pense que avoir peur, c'est pas forcément nécessairement bien. C'est-à-dire qu'en fait, il faut aussi que les. Moi, j'ai perdu ma mère assez tardivement, et justement, ma mère m'a tellement protégé que ça a été un énorme choc. Donc, parfois, il vaut mieux savoir ce que c'est, enfin, de façon pédagogique. Et c'est vrai que ce genre de livre, quand on le lit, c'est pas. On dirait que la violence, elle est plus entre les animaux que finalement. Et c'est vrai que Walt Disney en a fait quelque chose de très édulcoré, parce qu'en fait, finalement, ce qui est choquant dans ce dessin animé, c'est la mort de la mère. Ouais. Mais c'est quasiment ce qu'il a gardé uniquement de l'histoire. Alors que si on lit l'histoire globalement, on est dans
marqué,
un roman.
C'est ce qui a marqué tout le monde.
Voilà, on est dans un roman qui est tout à fait. Il se passe plein de choses. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas que la mort de la mère. La mort, c'est une anecdote dans le livre. Après, c'est vrai que cette histoire, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que, en fait, c'est un truc qui est difficilement supportable, c'est que le roman lui-même a été auto-daffé en 1933.
Voilà, il faut expliquer. Voilà. Auteur juif, expatrié en Suisse.
Voilà, exactement. Et donc, je trouve qu'en résonance avec la société actuelle, le fait de censurer quelque chose, ça m'a. Je me suis dit, faut en parler. Faut parler de cette histoire, et c'est vrai qu'on a Walt Disney, mais que le roman est beaucoup plus intéressant, on va dire moins.
Bon, c'est un hold-up, voilà. Walt Disney. Hein.
C'est un hold-up.
Frédéric, un mot là, il a déjà l'acquisition. Enfin, il était un peu désespéré, hein, l'auteur du livre.
Il avait besoin d'argent.
Fin de vie, il avait besoin d'argent. Les droits ont coûté très peu cher, et puis ce film en 1942 a complètement occulté le livre.
Occulté et oui, pour 1000 francs. Je pense que malheureusement Félix Salten n'a pas bien vécu à la fin de sa vie. Il a fallu qu'il travaille, qu'il fasse beaucoup d'écrits. Parfois, c'est aussi un personnage un peu trouble. Le fait qu'on censure une œuvre comme celle-ci en disant que les Allemands seraient les chasseurs et que c'est un peu, bon voilà,
c'est étrange.
Moi, j'ai pas eu cette lecture-là.
Lui-même est chasseur, donc. C'est une espèce de confrontation.
Donc c'est pas forcément les méchants, les chasseurs.
De la vie, on dirait.
Laissez parler Frédéric un peu. cet ancien disciple qui monopole le crachoir, c'est fou ça.
Non, c'est justement, moi je suis invitée et je me laisse bercer par ces thèmes communs. Mais voilà, dans le livre de Salten, c'est quand même tous les thèmes un peu de la vie avec leur ambivalence. Il y a une ambiguïté entre le fait d'être chasseur et de parler avec la forêt.
Voilà. Vous êtes des personnages de nature. Vous êtes tous les deux parisiens, hein, je crois.
Moi, je suis né à Paris.
Parce que moi, il y a un truc qui me frappe aussi quand je vois l'aspect foisonnant. Alors moi, depuis que j'ai un petit chien, je vais beaucoup me balader dans la nature. Et l'empreinte de l'homme est partout. Et le foisonnement, tel qu'on le voit chez vous, tel qu'on le voit chez le douanier Rousseau, par exemple, même si c'est un peu plus exotique, il n'existe plus vraiment. On n'entend plus tellement de bruit. Les animaux se sont retirés. On les a chassés loin. Il y a un rapport à la nature chez vous? Ou il est imaginaire, il est lointain?
Alors il y a un rapport à la nature, parce qu'en fait je vis à Paris, mais je pars en vacances, je voyage, voilà. Alors c'est vrai que la nature, c'est plus à Paris, c'est plus dans les parcs, etc. Mais il y a un côté très fantasmé, parce que c'est quelque chose que moi je n'ai pas connu de façon au quotidien, voilà. Je suis suffisamment voyagé pour un peu.
Je vous fais pas de procès en citadin qui aurait pas le droit de parler de la nature. Vous nous proposez de très belles images, hein, qui font appel à notre imaginaire d'ailleurs pour figurer ces murmures de la forêt. Moi j'ai une petite suggestion, vous avez d'autres univers qui vous, parce que là je regarde et j'ai vu, il y a un autre centenaire l'année prochaine, il faudra bosser vite parce que c'est l'année prochaine, L'enfant et les sortilèges de Ravel. Je ne sais pas si vous connaissez cette œuvre. Il faut vous y intéresser, ouais. Votre univers irait tellement bien avec ça.
Voilà. Ok, très bien.
Bon, bah, il faut bosser là-dessus.
Ok. Bah,
vous reviendrez.
Alors, j'ai déjà deux petits projets, mais je note.
Bon, cette exposition, Les Murmures de la Forêt, jusqu'au 12 juillet, au Théâtre du Crocheton, la Galerie du Crocheton. Vous verrez, c'est très, très beau. Voilà.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
La Minute Hawaïenne.
Sur Radio Chablais.
Qu'est-ce que ça fait de bien de se détendre?
La Minute Hawaïenne, c'est comme la pizza, mais en radio.
J'ai pas compris.
Aujourd'hui, dans la Minute Hawaïenne, des fois, c'est pas bien de traduire les chansons d'amour. C'est pas... Non, parce que si, par exemple, je te dis... éteins les lumières, n'essaye jamais de te résister, oh non. Oh, laisse l'amour venir briller dedans nos vies, encore. Pendant que je dis, je t'aime, et je veux que tu le saches maintenant. Oh, je t'aime, je veux te donner de l'amour, je veux te donner du bon amour. On est d'accord qu'il y a un truc avec notre slogan à nous, là. Suivez-nous, on vous suit. Un truc un peu inquiétant. Alors que pourtant, la chanson, à la base, elle est magnifique. Bon, ben, on va l'écouter. Hein. C'était... Des fois, c'est pas bien de traduire les chansons d'amour. Même pas bien, pas bien du tout.
La Minute Hawaïenne.
Sur Radio Chablais.
Qu'est-ce que ça fait de bien de se détendre?
La Minute Hawaïenne, c'est comme la pizza, mais en radio.
J'ai pas compris.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Le bon plan de Cyril vous est offert par BliBlablo de Net Plus et ses services internet, mobile et TV. BliBlablo, le multimédia d'ici.
Se nourrir, s'habiller, se distraire ou se meubler, que peut-on faire aujourd'hui?
Le bon plan de Cyril.
Sur Radio Chablais.
Philippe Duvanel, directeur ici du Château de Saint-Maurice, nouvelle expo ZEP, installée depuis quelques jours maintenant. Alors, pourquoi déjà ZEP? Est-ce que c'était normal? C'était un vœu longtemps attendu.
Oui, c'est vrai, depuis le début que j'ai pris les fonctions au Château de Saint-Maurice, je voulais faire une exposition autour de ZEP et je suis ravi de pouvoir la faire.
ZEP, bien sûr, c'est Titeuf, mais en fait, on découvre ici, dans l'exposition à Saint-Maurice, beaucoup plus que Titeuf. Il est sorti, bien sûr, de son personnage, il a su nous montrer d'autres choses, et en fait, c'est un personnage, ZEP lui-même, multifacette, un multitalent, un multi-esprit.
Oui, c'était le but de l'exposition, de montrer effectivement ces multifacettes, de regarder ZEP autrement que par le prisme de Titeuf, mais regarder aussi ses dessins d'observation, ses dessins d'arbres, ses récits en dessin réaliste, ou alors finalement son humour pour les grands à travers Episex, Epiparents ou alors Epiwork.
Parce que justement, on a l'impression que ZEP peut parler de tout avec une vraie tendresse, une vraie humanité, puis une vraie vérité.
Et une vraie simplicité, absolument. C'est un homme très sincère dans son travail et dans le regard qu'il porte sur l'être humain. Il a beaucoup de bienveillance et puis il le regarde avec beaucoup de douceur.
Et puis alors, il le regarde avec beaucoup de douceur, mais aussi, bien sûr, avec un esprit critique, une grande intelligence. Là aussi, on découvre ça, bien sûr, quand on sait lire Titeuf entre les lignes, mais aussi quand on lit l'autre univers de ZEP, les autres univers de ZEP.
Oui, Titeuf, c'est pas uniquement une littérature pour les enfants, bien au contraire, pour moi, c'est multigénérationnel. C'est vraiment quelque chose qui raconte beaucoup de choses sur la vie, sur l'existence, sur la faille, sur la solitude de l'enfance. Et puis tout le reste de son œuvre à Philippe, effectivement, c'est bienveillant, mais c'est jamais non plus niais. C'est même très critique et ça peut tout d'un coup être vraiment des coups de gueule contre quelque chose qui le touche profondément.
C'est quoi le premier souvenir de ZEP pour vous? Est-ce que c'est Titeuf? Ou vous qui êtes un passionné de BD, il y avait peut-être d'autres choses? Ici, c'est Titeuf. C'était quoi le premier souvenir de Titeuf?
Le premier souvenir de ZEP, pour moi, c'est de l'avoir rencontré à Paléo. Mais ça, c'était après avoir découvert son œuvre. Je travaillais pour Paléo, je l'avais rencontré. Il m'avait beaucoup impressionné. J'étais ravi de le rencontrer. C'est un homme extrêmement solaire, très particulier. Hein, je veux dire, quand on le rencontre, c'est quelque chose de très fort qui se passe. Et puis en termes de lecture, effectivement, le premier Titeuf m'avait beaucoup marqué parce que je me suis dit, mais c'est une bombe. En fait, c'était transgressif, c'était quelque chose qui libérait l'enfance, qui la racontait avec vraiment sincérité et puis clairvoyance. Donc ça m'a beaucoup touché. Mais avant cela, mon premier souvenir de ZEP, eh bien, c'est finalement Léon Coquillard. C'est l'album qui avait été édité par le GSSA pour Une Suisse sans armée. Et ça, c'est très drôle.
Et ça va totalement avec le personnage. Dans cette exposition, qu'est-ce que vous avez voulu montrer en plus de, bien sûr, l'univers, le multifacette, toutes ces choses dont on vient de parler, mais c'est quoi pour vous les forces de l'exposition?
Bien, c'est montrer l'éclectisme de l'auteur, effectivement sa possibilité, sa capacité à pouvoir s'adresser à plusieurs publics et pas uniquement aux enfants, et puis sa capacité surtout à raconter l'enfance avec beaucoup de naturel et de sincérité.
On se réjouit ici de justement venir découvrir parce que c'est typiquement le genre d'expo que vous proposez à chaque fois, mais peut-être encore plus là, on va venir en famille, mais on va venir entre potes, on va venir à tous les âges, on va venir, comme on a l'habitude de le dire peut-être, de 7 à 77 ans, mais beaucoup plus en fait, bien avant et bien après.
Ben, j'espère que ce que vous dites va se réaliser, mais effectivement, c'est disons la marque de fabrique du château, c'est de pouvoir, et c'est pas forcément simple à faire, mais de réunir un assez large public avec les Schtroumpfs. On avait vraiment réuni des gens de une année et demie à pratiquement 87 ans, et puis ben là, j'espère qu'on pourra faire de même.
Merci Philippe Duvanel.
Merci à vous.
Se nourrir, s'habiller, se distraire ou se meubler, que peut-on faire aujourd'hui?
Le bon plan de Cyril.
Sur Radio Chablais, retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
Le MAG, c'est la plus belle région au monde. Le Chablais, la Riviera et le Pays d'en Haut, raconté par la rédaction de Radio Chablais. Et les lundis, c'est sport, parce qu'on aime bien commencer la semaine dans l'effort, ça rend les week-ends meilleurs. Et toute la famille va s'y mettre dès aujourd'hui, puisque la troisième édition de la semaine valaisanne du sport est à vivre dans tout le canton jusqu'au 4 mai. Différents événements pour le grand public se déroulent un peu partout en Valais, avec notamment les Family Games ce samedi à Sion, mais des conférences thématiques destinées aux professionnels sont également au menu, avec notamment la présence du judoka médaillé olympique Sergei Ashvenden. On en parle avec Xavier Borgeot et Grégoire Girillo, une des chevilles ouvrières de la semaine valaisanne du sport.
Grégoire Girillo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc le chef de l'Office cantonal du sport en Valais, et c'est la troisième édition de la semaine valaisanne du sport. On va revenir peut-être à la genèse de ce projet. Pourquoi une semaine du sport en Valais?
Alors, une semaine du sport, pour parler positivement du sport déjà, mettre en valeur nos sportifs, notre jeunesse, et parler des valeurs que véhicule le sport.
Et c'était important de mettre une semaine sur pied comme ça?
Oui, donc à l'instar de la semaine du goût, la semaine contre le racisme, on parle de la semaine du sport, parce que le sport c'est très important pour le département, pour l'État, pour notre canton.
Alors comment il se porte ce sport en Valais?
Il se porte bien, je dirais au niveau du sport de masse, nous avons la chance d'avoir 115 000 adhérents à des clubs affiliés à des fédérations, donc c'est beaucoup. Nous avons également à peu près 60% des jeunes de 5 à 20 ans membres d'un club de sport. Alors vous me direz, que font les 40% restants? Ben, ils font du théâtre, ils font de la fanfare. Et malheureusement, un 10% ne fait rien.
Donc c'est sur ce 10% que vous tablez?
Alors, on va essayer de les sensibiliser. Déjà, donc, dans l'idée, c'est de mettre sur pied un projet pilote pour le sport scolaire, pour préparer éventuellement une fête fédérale en 2028. Mais là, on va voir si on peut faire progresser ça. On n'a pas beaucoup de succès en Valais dans ce niveau-là, mais notre travail, c'est de sensibiliser les écoles, les profs de sport, pour dynamiser ce projet.
Alors justement, vous parlez de ce travail qui est effectué sur le terrain. Est-ce que vous travaillez main dans la main avec les écoles, avec les établissements, avec le canton pour ça?
Alors en principe, nous travaillons avec les fédérations sportives, les piliers du sport. C'est elles qui enseignent le sport. Nous, on les aide à financer certains projets, à financer des formations de moniteurs. Donc nous, c'est important que les clubs aient des moniteurs de jeunesse sport formés, gages de qualité.
Et c'est difficile ça?
Non, je dirais c'est... En fait, le canton répond aux besoins des fédérations. Nous n'avons jamais refusé à une fédération un cours jeunesse et sport, même si parfois c'est des cours qui coûtent assez cher, mais nous faisons l'effort pour pallier le manque dans certaines fédérations orphelines. Parce que les petites fédérations, c'est compliqué de mettre sur pied des cours. Là, l'Office cantonal du sport les aide.
Alors, on l'a dit, c'est la troisième édition de cette semaine valaisanne du sport. Sans aller dans trop de détails, mais quel sera le programme de cette semaine?
Alors, l'idée, c'était de dire... un jour, une activité sportive, ou une conférence, ou quelque chose. Donc on a commencé, bien sûr, par la demi-finale de coupe Suisse, avec le résultat que l'on connaît. Également le départ du Tour de Romandie à Saillon, qui était un beau succès. Donc ce soir, lundi, nous avons le kick-off de l'Euro-Foot féminin 2025 au stade de Tourbillon. Là aussi, un beau projet pour le Valais et pour le sport féminin, que le canton encourage. Demain soir, nous avons une conférence et une démonstration sur la lutte suisse à Viège, donc là, en allemand. Donc là, nous avons la chance d'avoir un roi de la lutte suisse qui sera là. Également, on parlera, donc il y aura une démonstration d'abord avec des jeunes et des moins jeunes, puis ensuite une conférence sur comment devient-on couronné fédéral. Donc c'est clair que c'est en vue d'eux, hein. Peut-être en 2031, on aura la fête fédérale de lutte suisse à Sion ou ailleurs. Donc c'est important pour nous de préparer tout ça. Mercredi, un grand moment aussi, nous avons une démonstration sur les sports de tradition. Donc, sport de tradition, ça veut dire la boxe, ça veut dire le karaté et le judo, avec des champions qui seront là pour montrer un petit peu leur sport. Et après, pour débattre, c'est les valeurs qu'inculquent ces sports de tradition, comme on peut appeler. Jeudi, un grand moment aussi, nous avons les fameux mérites sportifs valaisans au baladin, où nous sommes sold out pour la première fois. Le baladin sera plein, joli. Plein comme un œuf. Donc là, c'est le but que m'avait assigné mon chef de département, de remplir le baladin. Il sera plein avec...
Donc, objectif atteint.
Objectif atteint pour moi, mais on verra maintenant concrètement comment ça se passe. Où on aura aussi le plaisir de mettre en valeur des jeunes sportifs talentueux et des sportifs avérés qui ont fait... rayonner le Valais ailleurs dans le monde.
C'est vrai que ça, c'est important hein, de pouvoir mettre en avant les ambassadeurs, finalement, du sport valaisan.
Bien sûr, puisqu'un un champion de sport met en valeur le canton, puisque le slogan du canton, c'est Valais actif, Valais sportif. Donc c'est clair, pour nous, on a le plus beau stade du monde, les Alpes. Donc là, on met en valeur, évidemment, c'est plus facile pour nous d'avoir un champion de ski qu'un champion d'haltérophilie, on est d'accord, mais on met tout en place pour que même un champion d'haltérophilie puisse devenir champion d'Europe ou ailleurs. Donc on met en valeur ces sportifs et des équipes aussi, sport handicap. Mon chef de département va attribuer un prix valeur sportive. Donc c'est le terme valeur sportive, c'est pas seulement des résultats, c'est aussi une éthique.
Bon, c'est aussi un état d'esprit, hein. Exactement. Ça, c'est extrêmement important.
Et puis un prix spécial à deux personnalités du sport qui sera dévoilé jeudi soir. Et samedi, très important, nous avons les fameux Family Games à Sion, où là on attend toutes les familles, tous les amis, pour venir s'essayer à 20 sports différents sur la place du C.
On sent en tout cas l'enthousiasme chez vous. On va peut-être rappeler que c'est sur inscription, donc les gens peuvent venir.
C'est gratuit.
C'est gratuit, donc, mais c'est sur inscription.
Bien sûr, et malheureusement, jeudi soir, c'est complet.
Et jeudi soir au baladin, c'est complet. Grégoire Girillo, merci beaucoup pour toutes ces informations. On le rappelle, vous êtes donc le chef de l'Office cantonal du sport du Valais. Et c'est la troisième édition donc, de cette semaine sportive en Valais. On vous souhaite plein succès avec cette semaine.
Merci à vous et vive le sport.
Radio Chablais. Programme de nuit.
On passe à présent au rink hockey dans ce mag spécial sport du lundi, parce que de toute façon, les lundis, c'est sportif et c'est pas fastoche de commencer la semaine. Et là, peut-être aujourd'hui, encore un petit peu moins. Mauvaise nouvelle, le retour du Montreux HC en LNA de rink hockey ne sera malheureusement pas pour tout de suite. Thierry Nicolet, bonjour.
Bonjour Loïc. Effectivement, les joueurs de la Riviera ont été éliminés samedi par Puy au stade des demi-finales de play-off de la 2e division nationale. Une défaite 5-4 après prolongation, entachée d'une potentielle erreur d'arbitrage sur le but décisif. Le club s'est d'ailleurs réservé le droit de déposer protêt. Réponse dans quelques jours. Mais pour le moment, c'est l'amertume qui prédomine pour le Montreux HC. Les Vaudois sont éliminés alors qu'ils ne visaient rien d'autre que la promotion. Julien Massy s'est entretenu avec l'entraîneur de l'équipe, Rui Kova.
Grégoire Girillo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc le chef de l'Office cantonal du sport.
Très amer. C'était un match qu'on était obligé de gagner. C'était un match qu'on a donné un mi-temps d'avance comme le match allait à l'équipe adversaire. Et la deuxième mi-temps, on a fait un très bon deuxième mi-temps. Cette équipe méritait plus que ça. L'équipe passe devant le résultat. Après, il prend un but à la fin. L'équipe marque un but pour égaliser le match. Après, on a concrété des opportunités pour marquer pour tout le match. Péno, cage au vert. Et on n'arrive pas à marquer. Après, avec une erreur d'arbitre à la fin, on prend un but.
Justement, votre équipe, elle a montré du caractère. Vous êtes mené 2-0 à la mi-temps, vous êtes mené 3-1, vous revenez au score. Ça, c'est la force de votre équipe cette saison?
Je ne dirais pas la force parce que on est habitué à commencer à gagner, on est habitué à gagner le match. Je pense que mon équipe, elle a montré qu'il y a du caractère, il y a de l'envie qu'on a besoin. Parce qu'il y a des matchs comme ça, il faut avoir. Et l'équipe, elle a tout fait pour gagner le match. Elle a tout fait.
Il y a eu des opportunités, vous l'avez dit, en fin de rencontre, vous avez réussi à prendre de l'avance. De ne pas réussir en prolongation à garder ce petit but d'avance, c'est ça qui vous coûte le match aujourd'hui?
Oui, c'est ça qui nous coûte cette match aujourd'hui. Et à ça, il n'y a pas que le but d'avance, il y a aussi le péno qu'on rate, il y a aussi des cages au vert qu'on rate. Et voilà, et quand tu rates autant d'occasions comme un match comme ça, le match peut tomber par un côté ou l'autre. Et c'est ça que l'équipe adversaire a fait. Avec un petit erreur et avec la chance, ils sont arrivés devant, mais la chance, elle se cherche.
Cette série de demi-finales de play-off face à Puy, elle se solde par une défaite 3-1. À quel moment, selon vous, vous laissez échapper votre chance de remporter cette série?
Je pense que déjà, le premier match, on n'était pas à notre niveau chez eux. Après, à la maison, le moment qu'on gagne 2-1, il y a 10 minutes de la fin, on prend 3 buts d'ensuite, notre erreur aussi. Je pense que c'est après ce deuxième match qu'on n'a pas réussi à gagner chez nous, qu'on méritait gagner en plus. C'est là que je pense qu'on a perdu cette série.
Une demi-finale face à un adversaire qui géographiquement est proche, un derby, ça mettait un petit peu de piquant en plus?
Je pense que l'équipe elle a senti ça. Oui. Pour moi non, parce que pour moi j'ai envie de gagner tout le match, n'importe si c'est ici à côté, c'est d'autre côté de la Suisse. Oui, les joueurs ils ont senti, je pense, un peu ça, et ça se voyait aussi pour le supporter qui était dans la tribune. Mais voilà, l'équipe, je pense aussi que les joueurs sont dépassés un peu plus, ils ont donné un peu plus. Et voilà, je pense que c'était un derby.
Maintenant, la saison est terminée. Quel bilan à chaud, vous, l'entraîneur, vous tirez de cette saison avec le Montreux Hockey Club?
Déçu pour ne pas arriver à notre objectif. Parce que la vérité, c'est qu'après tout ce qui est arrivé depuis le début de la saison, que j'ai 9 matchs, c'est notre gardien titulaire. Je joue avec un gardien qui a 16 ans, qui a joué la plupart des championnats. Arrivé de la première 4 places, je peux être fier de mon équipe. Mais déçu parce que cette équipe méritait plus. On a montré dans la piste qu'on méritait plus qu'arrêter ici à demi-finale avant de jouer la finale.
L'objectif en début de saison, c'était la promotion. Cet objectif, il n'est pas atteint. Ça vous laisse quel sentiment ?
Un peu de tristesse parce que j'ai appris l'équipe, ça fait 2 ans. Cette équipe, elle a beaucoup évolué. C'est plus les gamins que j'ai appris qu'ils avaient 17 ans et 18 ans. Ce sont des jeunes hommes qui ont de 20 ans, 21 ans, 22 ans. Ils ont beaucoup progressé. Ils jouent mieux, ils sont, que je dis, c'est déjà quelque chose. Et cette équipe, je pense qu'elle mérite plus que ça. Et c'est pour ça que je suis triste. Parce que je sais que cette équipe mérite plus que l'NB.
Et pour vous, la suite, c'est de rester à la tête du Montreux Hockey pour la saison prochaine, de travailler sur une nouvelle équipe, d'apporter 2-3 petits changements. Comment vous voyez l'avenir ?
Déjà, je peux rien dire. Il vient de finir la saison. Normalement, oui. Je reste comme entraîneur. L'année prochaine, je peux jouer parce que j'arrête d'être étranger aussi. Je pense, mais après, le reste de la saison, pour la saison prochaine, on va réfléchir. On va parler avec la direction. On va essayer de faire le mieux pour que ça soit mieux par l'équipe.
Le mieux, c'est d'essayer de trouver quelques éléments qui peuvent bonifier l'effectif ou d'aller avec les jeunes, de faire rentrer des jeunes dans l'effectif pour le futur.
Pas forcément chercher des gens. Je pense que les joueurs ils progressent toutes les années, ils sont en train d'améliorer chaque année. Pas obligé d'aller chercher des joueurs, mais s'il faut, pour améliorer l'équipe, on discutera sur ça avec la direction.
Et les objectifs resteront les mêmes, aller chercher cette place en Liga ?
Toujours le même, il n'y a rien qui change.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Et pour terminer ce mag sportif du lundi, on va parler de basket. Thierry Nicolet, tu reçois le nouveau président fraîchement élu du BBC Monté-Chablais.
Effectivement, Claude Petit a été plébiscité mercredi dernier lors d'une assemblée générale extraordinaire pour être le successeur de Laurent Duchou. Il en a même profité pour présenter ses projets futurs pour le club de sa ville. Claude Petit, bonsoir.
Bonsoir.
On l'a dit, président du BBC Monté-Chablais, c'est quelque chose que vous auriez voulu, que vous auriez imaginé. On le rappelle, vous êtes membre du comité depuis 2 ans, maintenant président, c'était une volonté de votre part?
Alors c'était pas forcément au départ une volonté. Quand je suis rentré il y a 2 ans au comité, effectivement, Laurent Duchou avait déjà annoncé qu'il allait faire 4 ans, donc il faisait encore 2 saisons. Après on se posait la question, est-ce qu'il allait quand même continuer ou pas? Et puis en début de la saison dernière, il a clairement annoncé lors de l'Assemblée Générale que c'était sa dernière saison.
Et puis là, vous vous êtes dit, ça pourrait être moi?
Alors j'ai clairement, dans les discussions que j'ai eues avec Laurent, je lui ai dit que j'étais disponible, pas forcément vraiment tout de suite intéressé, mais disponible, en disant que s'il y avait une candidature, une personne qui s'annonçait et qui voulait prendre à tout prix prendre la présidence, c'était pas une ambition démesurée de ma part, et puis je serais volontiers resté au comité.
Ouais, bah on le dit, on vous appelle maintenant président du BBC Monté-Chablais, c'est quelque chose qui peut faire peur, qui peut impressionner, vous le voyez comment ça?
Non, moi je pense ça plutôt comme un défi, comme une chance aussi de pouvoir m'engager encore plus que je l'ai fait jusqu'à présent pour ce club qui est mon club depuis plus de 50 ans, puisque j'ai fait toutes mes classes de basket au BBC Monté. Et puis c'est vrai que c'est aussi une occasion pour moi de retrouver tous ces gens, les amis, les anciens du club, très vite autour du club depuis bientôt 50 ans comme moi.
Si vous deviez décrire le BBC Monté-Chablais en quelques mots, qu'est-ce que vous diriez justement? Vous l'avez dit, c'est toute une partie de votre vie.
Alors c'est une grande partie de ma vie. C'est vrai que ça fait 50 ans que je vis le basket d'une manière ou d'une autre. Alors d'abord comme joueur, ensuite comme spectateur, parce que c'est vrai que c'est pour moi c'est vraiment le sport que j'apprécie le plus. Et quand j'ai eu l'occasion d'aller à NBA, billets, voir des matchs aux États-Unis, d'aller, je vais souvent en Italie aussi voir des matchs. Donc c'est vrai que pour moi, ça reste un sport spectaculaire et magnifique.
S'il y a des souvenirs comme ça, dans vos plus jeunes années, du BBC Monté-Chablais, dans les récentes aussi, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant?
Alors peut-être deux souvenirs. Bah, effectivement, avec mon frère jumeau, on était intégré à la première équipe dans les années 80, l'année de l'ascension, puisqu'à cette époque, Piero Vanès désespérait un petit peu parce qu'il y avait beaucoup de jeunes joueurs suisses qui étaient soit à l'école de crue, soit en cours de répétition. Donc il n'arrivait pas à former, à avoir 10 joueurs sur sa disposition pour pouvoir faire les systèmes et puis entraîner l'équipe. Et puis à l'époque, moi, j'étais étudiant au collège de Saint-Maurice. Et c'est vrai qu'on allait à l'époque encore au collège le samedi matin. Et quand on faisait faire les déplacements à Lugano, mais il fallait obtenir une autorisation spéciale du pro-recteur de l'époque pour être libéré le samedi matin pour rejoindre l'équipe et puis faire le trajet jusqu'au Tessin.
Ouais, bah, c'est une sacrée anecdote en tout cas. Bah, de quoi fatiguer quand même un peu, on imagine aussi. Bon, on a parlé de ce rapport que vous avez avec le BBC Monté-Chablais, votre point de vue personnel sur ce club. Parlons du club en lui-même, sportivement. La saison 2023-2024 vient de se terminer sur une défaite en quart de finale de play-off. C'était face à Genève. Tout ça après avoir terminé cinquième du classement de la saison régulière. La place du BBC Monté-Chablais, c'est ça, c'est de finir milieu de tableau, déqualifié pour les play-offs et puis les quarts de finale, où on peut viser mieux quand même.
Alors c'est vrai qu'on peut viser mieux dans le sens, peut-être pas au niveau du classement, parce que c'est vrai qu'il y a quand même certaines équipes qui, eu égard à leur budget, vont être forcément aussi devant nous dans le championnat régulier. Par contre, c'est vrai qu'on a échoué de peu cette saison par rapport à la SBL Cup, donc au niveau de la Coupe Suisse, mais aussi par rapport à la Coupe de Montreux. On a perdu à Vevey, on gagnait presque tout le match, on a perdu dans les dernières minutes, et c'est vrai que voilà, ça c'est des buts qu'on aimerait, des objectifs qu'on aimerait bien atteindre assez rapidement.
Ouais, vous parlez de ce Final Four, bah c'est se joue à Montreux, salle toujours assez pleine, donc c'est vraiment c'est ce genre de match qui donne envie de participer à fond, c'est ça?
C'est ça, et puis c'est surtout le petit plus qui fait qu'une saison est mieux réussie qu'une autre. Donc je pense que le classement de cinquième, alors c'est vrai que si on peut gagner encore une place et puis jouer un quart de finale à domicile d'abord plutôt que d'aller à l'extérieur, c'est forcément l'avantage du terrain, et on a vu le public qui était extraordinaire lors des deux derniers matchs contre Genève. Donc c'est vrai que cet avantage, ce sixième homme sur lequel on pourrait compter, pour nous, c'est un avantage considérable.
Ouais, Monté a été loin d'être ridicule hein, face à Genève, aussi une des grosses équipes, des gros budgets en tout cas du championnat. Ce club, vous voudriez l'emmener jusqu'où, vous?
Ben, on est là pour rêver, pour faire rêver. Donc c'est vrai que si on pouvait améliorer, comme j'ai dit, le classement, réussir peut-être, en tout cas être présent dans une des deux finales, voire les deux finales de coupe. Donc ça, c'est des objectifs qu'on peut atteindre et qui, en fonction des tirages au sort aussi, sont tout à fait réalistes. Et puis peut-être, en tout cas, consolider, confirmer le classement qu'on a obtenu cette année pour la saison prochaine.
Et ces objectifs sportifs, comment on peut se donner les moyens de les atteindre?
Ben, c'est d'une part en essayant de faire en sorte que les actuels sponsors et contributeurs, le reste, continuent à soutenir le club. Certains sont déjà engagés sur une certaine durée. Et puis peut-être je vais essayer d'en trouver d'autres aussi pour essayer d'avoir un peu plus de réserve et de marge de manœuvre pour avoir un ou deux joueurs supplémentaires qui feront peut-être la différence sur le terrain.
Et on a fait le bilan de cette saison 2023-2024. Ce qu'on peut aussi dire, c'est que Monté est une des équipes qui fait jouer le plus de joueurs suisses hein, dans son effectif, qui ont le plus de minutes aussi. Ce secteur de la jeunesse, on croit comprendre que c'est assez important pour vous nous le confirmez?
Alors c'est essentiel parce que c'est vrai que depuis quelques années, il y a eu une séparation au niveau de la gestion administrative des deux entités, donc le mouvement jeunesse d'une part et la première équipe. Alors ce qui pour moi ne pose pas de problème en soi. Par contre, c'est vrai qu'il faut vraiment qu'on ait une continuité, une suite logique entre le mouvement jeunesse, donc les U16, les U23 et puis la première équipe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, si on fait une comparaison avec d'autres clubs, on a plusieurs autres clubs de Suisse qui ont eu un mouvement jeunesse ou qui ont une deuxième équipe qui joue les ténors en Ligue nationale B. Nous, on a une équipe de U23 qui actuellement, depuis quelques saisons, est plutôt en fond de classement. Donc c'est vrai qu'on doit améliorer ce lien avec les jeunes, puis surtout donner une perspective à tous les jeunes de club de pouvoir se dire, mais un jour, si je suis bon et si je m'entraîne et si je suis motivé, je peux jouer avec la Ligue 1.
Et ça passe par essayer de les garder, ces jeunes joueurs, justement leur donnant un objectif, un rêve, ça peut permettre de les garder dans l'effectif?
Alors c'est un des objectifs. Après, on ne pourra pas empêcher, on l'a vu, hein, on a 5 à 6 jeunes qui sont qui sont à l'étranger pour se former, pour se perfectionner. C'est vrai que si certains d'entre eux veulent vraiment faire du basket aussi leur carrière professionnelle, ben c'est clair que la Suisse est peut-être un peu à l'étroit et on n'a pas toutes les ressources non plus nécessaires, mais on a différents projets sur lesquels on travaille. Et puis le projet qui va se concrétiser déjà la prochaine saison, c'est que l'assistant coach de Ligue Nationale A sera en même temps l'entraîneur coach de U23 et on va assurer ce lien étroit entre le mouvement jeunesse et puis la première équipe.
Ah bah, y a du travail qui vous attend en tout cas on l'a bien compris, Claude Potier. Pour ça, vous serez entouré d'un comité renforcé, c'est ça?
Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, on en perd évidemment Laurent Duchou quitte la présidence, mais également le comité, hein, ce qu'on peut tout à fait comprendre. Il va forcément rester aussi proche du club, et je sais que je vais pouvoir compter sur lui aussi pour la suite. Par contre, il y a trois nouvelles personnes en principe qui vont rejoindre le comité, et puis il y a aussi la mise en place de commissions, une commission technique pour soutenir notre team manager Nicolas Berolser. Il y aura une commission finance aussi pour essayer justement d'élargir le nombre de sponsors et de contributeurs, et puis une commission aussi plutôt en lien avec le bénévolat, avec les animations aussi du club.
Oui, bah, ça fait du, comme on l'a dit, du travail, garder les jeunes, investir sur cette jeunesse. Il y a un autre club dans la région qui joue dans la même salle que vous, Orposieux, c'est le BBC 3 Torrents. Là aussi, on peut imaginer des liens un peu plus forts entre les deux entités.
Alors, on ne va pas seulement les imaginer, on va vraiment les concrétiser, les réaliser dès la saison prochaine. J'ai déjà eu plusieurs rencontres avec Xavier Mottet, le président. On va travailler, par exemple, sur la possibilité d'un abonnement commun pour aller voir les matchs, de peut-être travailler aussi sur des journées où on aura, par exemple, les samedis, en jouant la même journée avec les deux équipes de Ligue 1. Donc voilà, il y a plein de projets comme ça, plein d'idées qui peuvent être réalisées, des activités communes pour renforcer les liens et puis pour montrer aussi, je crois, à l'ensemble du canton, à l'ensemble de la région, que le basket, c'est le sport principal de la région du Chablais.
Ouais, c'est ça, c'est que dans un petit périmètre, on a deux équipes de première division, il y a vous, il y a Trois-Torrents, il y a encore Vevey, il y a aussi Vevey, ouais, qui est un peu plus loin. Vous l'avez parlé, le Chablais, le pôle cantonal de basket, ça c'est faisable. Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour la suite?
Alors, ce qu'on imagine, c'est si on arrive à fédérer toute la région autour du basket, c'est de faire aussi admettre et reconnaître par le canton que le Chablais est le pôle de compétence du basket. Et puis, dans les discussions futures qu'on va avoir avec les municipalités, avec la possibilité de construire une salle dédiée au basket, pas exclusivement pour le basket, mais principalement dédiée au basket, ben je pense qu'à travers des sponsors, à travers une émulation de toute une région, on peut arriver à obtenir une décision politique. Et puis aussi, évidemment, un soutien cantonal avec la nouvelle loi sur le sport qui prévoit un subventionnement de l'ordre de 30% si une région est reconnue comme centre de compétences pour un sport.
Et puis si on peut se permettre de rêver un petit peu, dans combien d'années on pourrait voir ça?
Alors, c'est un projet qui, en principe, se réalise sur un horizon de 5 à 8 ans, mais il faut le démarrer une fois, il faut que l'ensemble des entités concernées se mobilisent pour ça, et puis après ça peut aller assez vite.
Ouais, Claude Potier, on le rappelle, vous êtes le nouveau président du BBC Monté-Chablais. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce mandat?
D'avoir beaucoup de plaisir dans l'exercice de ce mandat, puis surtout faire en sorte que tous les gens qui gravitent autour du BBC Monté continuent à avoir beaucoup de plaisir à le faire.
En tout cas, on vous le souhaite. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Vous souhaite une excellente soirée.
Merci à vous, bonne soirée.
Et une excellente soirée aussi à tout le monde. Merci beaucoup.
Une excellente soirée à tout le monde, parce que la vie peut être merveilleuse lorsqu'on vit la magie du basket.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Pas des rétro, ananas.
Je suis désolé, je comprends pas.
Attends, je t'explique.
Sur Radio Chablais.
Ah, bah c'est tout de suite beaucoup plus clair.
Je me souviens pas de la dernière fois que je suis monté sur un vélo. C'était il y a très longtemps. Et pourtant, Dieu sait que la pratique de la bicyclette s'est démocratisée, notamment depuis un certain virus nommé Covid. Bref, il y a un bike park qui a ouvert il y a pas très longtemps à Fuy. Et je me suis demandé, c'est quoi un bike park? Je reçois pour répondre à la question Alexandre Roduit. Salut.
Salut, bonjour.
Alors déjà, merci d'être arrivé parce que t'as eu un petit pépin, je pensais qu'il va venir à vélo. Non, t'as eu un petit pépin avec ta voiture en arrivant ici, donc on est très heureux que tu sois arrivé et en un seul morceau. Allons-y, toi tu es membre du comité du bike park de Fuy.
Exactement.
Un bike park, c'est quoi ?
Un bike park, c'est un grand espace naturel qui est dédié à la pratique du VTT. Un espace avec des virages relevés, des sauts, des bosses, un wall ride, des passerelles, des modules d'équilibre. Il y a deux objectifs, c'est de se faire plaisir sur son VTT et puis aussi de s'exercer. Il y a plein de petits modules qu'on peut pratiquer pour ensuite être à l'aise sur les sentiers quand on va se faire des randos plus haut.
Donc, est-ce que c'est une espèce de parcours vita didactique du vélo, un peu un truc comme ça?
On peut voir ça comme ça, exactement.
Avec des panneaux et tout ça?
Il y a des panneaux qui expliquent un petit peu les règles. Et puis après, on a sur chaque module d'exercice, c'est en cours de préparation maintenant, on va mettre un petit QR code, il y a un petit piquet avec un QR code. Et puis sur ce QR code, on trouvera des tutos vidéo pour apprendre comment se positionner pour faire un petit saut, comment se positionner pour chaque type d'exercice. Et puis on peut s'exercer avec différents niveaux à chaque fois. Par exemple, quand on fait un saut, on commence niveau bleu, ensuite rouge, noir, il y a des sauts de différentes hauteurs. C'est vraiment conçu et pensé pour tous les niveaux. On peut même venir en Andrésienne, on a les enfants du quartier qui sont souvent dessus. Et puis, on peut aller très très loin. Il y a des gars qui font des sauts énormes. Enfin, tout le monde se fait plaisir en fonction de son niveau. On peut se faire plaisir et on peut progresser, puis un peu les deux en même temps, et c'est top.
Ça, en plus, avec des codes couleurs qu'on connaît bien, c'est les mêmes que les pistes de ski.
Exactement, c'est hyper facile.
Et c'est assez ouf ça, parce que c'est vrai qu'il y a une démocratisation énorme de ce sport, notamment durant la période Covid, parce qu'on s'est dit, le seul moment où on peut sortir, bah, c'est pour aller faire du vélo, allez hop, tout le monde achète un vélo. Mais ce qui est quelque chose de bien, finalement, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vélos dehors, et là, vous, en fait, il y a une partie didactique où on t'enseigne à comment bien te tenir pour finalement pas te blesser, parce que plus il y a de pratiquants d'une discipline, plus il y a des risques d'accident.
Exactement, il faut apprendre à le faire bien, et puis là, on a vraiment... l'opportunité de s'entraîner, de progresser, chacun à son niveau. Puis quand on maîtrise bien une étape, et ben on passe un peu plus loin.
Quelle surface il fait ce bike park?
C'est 6000 mètres carrés.
Ça représente combien en terrain de foot, pour ainsi dire?
Je sais pas.
C'est terrain de foot, un truc comme ça, non?
Ouais,
c'est pas
peut-être.
Ça
alors c'est en pente, c'est en légère pente naturelle, tout en pierre, en bois et en terre. Pas de béton, pas de goudron.
Donc potentiellement, il va falloir, les jours de pluie, on rentrera avec tout taché de boue, comme quand on était gamin, et puis qu'on allait partir faire les chèvres à vélo dans la forêt.
Ah, c'est la joie du VTT, ça, ouais, c'est sûr.